Jules Verne, L'île à hélice, deuxième partie, chapitre 1, aux îles de Cook. Depuis 6 mois, Standard Island, parti de la baie de Madeleine, va d'archipel en archipel à travers le Pacifique. Pas un accident ne s'est produit au cours de sa merveilleuse navigation. À cette époque de l'année, les parages de la zone équatoriale sont calmes. Le souffle des alizés est normalement établi entre les tropiques. D'ailleurs, lorsque quelques bourrasques ou tempêtes se déchaînent, la base solide qui porte Milliard City, les deux ports, le parc, la campagne, n'en ressent pas la moindre secousse. La bourrasque passe, la tempête s'apaise. À peine s'en est-on aperçu à la surface du joyau du Pacifique. Ce qu'il y aurait plutôt lieu de craindre dans ces conditions, ce serait la monotonie d'une existence trop uniforme. Mais nos Parisiens sont les premiers à convenir qu'il n'en est rien. Sur cet immense désert de l'océan se succèdent les oasis, tels ces groupes qui ont été déjà visités, les Sandwich, les Marquises, les Pomotou, les îles de la Société, tels ceux qu'on explorera avant de reprendre la route du Nord, les îles de Cook, les Samoa, les Tonga, les Fidji, les Nouvelles-Hébrides, et d'autres peut-être. Autant de relâches variés, autant d'occasions attendues qui permettront de parcourir ces pays, si intéressants au point de vue ethnographique. En ce qui concerne le quatuor concertant, comment songerait-il à se plaindre, si même il en avait le temps? Peut-il se considérer comme séparé du reste du monde? Les services postaux avec les deux continents ne sont-ils pas réguliers? Non seulement les navires à pétrole apportent leur chargement pour les besoins des usines presque à jour fixe, mais il ne s'écoule pas une quinzaine sans que les steamers ne déchargent à tribord harbor ou à bâbord harbor leur cargaison de toutes sortes. Et aussi le contingent d'informations et de nouvelles qui défraye les loisirs de la population milliardaise. Il va de soi que l'indemnité attribuée à ces artistes est payée avec une ponctualité qui témoigne des inépuisables ressources de la compagnie. Des milliers de dollars tombent dans leur poche, s'y accumulent, et ils seront riches, très riches, à l'expiration d'un pareil engagement. Jamais exécutants ne furent à pareille fête, et ils ne peuvent regretter les résultats relativement médiocre de leur tournée à travers les États-Unis d'Amérique. Voyons, demanda un jour Frascolin au violoncelliste. Es-tu revenu de tes préventions contre Standard Island?
Non, répond Sébastien Zorn.
Et pourtant, ajoute Pinchina, nous aurons un joli sac lorsque la campagne sera finie.
Ce n'est pas tout d'avoir un joli sac, il faut encore être sûr de l'emporter avec soi.
Et tu n'en es pas sûr?
Non.
À cela, que répondre? Et pourtant, il n'y avait rien à craindre pour le dit sac, puisque le produit des trimestres était envoyé en Amérique sous forme de traite et versé dans les caisses de la Banque de New York. Donc le mieux est de laisser le têtu s'encrouter dans ses injustifiables défiances. En effet, l'avenir paraît plus que jamais assuré. Il semble que les rivalités des deux sections soient entrées dans une période d'apaisement. Sirius Bickerstaff et ses adjoints ont lieu de s'en applaudir. Le surintendant se multiplie depuis le gros événement du bal de l'hôtel de ville. Oui, Walter Tanguardon a dansé avec Miss Di Coverley. Doit-on en conclure que les rapports des deux familles soient moins tendus? Ce qui est certain, c'est que James Tanguardon et ses amis ne parlent plus de faire de Standard Island une île industrielle et commerçante. Enfin, dans la haute société, on s'entretient beaucoup de l'incident du bal. Quelques esprits perspicaces y voient un rapprochement, peut-être plus qu'un rapprochement, une union qui mettra fin aux dissensions privées et publiques. Et si ces prévisions se réalisent, un jeune homme et une jeune fille, assurément dignes l'un de l'autre, auront vu s'accomplir leur vœu le plus cher, nous croyons être en droit de l'affirmer. Ce n'est pas douteux. Walter Tanguardon n'a pu rester insensible au charme de Miss Di Coverley. Cela date d'un an déjà. Étant donné la situation, il n'a confié à personne le secret de ses sentiments. Miss Di l'a deviné, elle l'a compris, elle a été touchée de cette discrétion. Peut-être même a-t-elle vu clair dans son propre cœur, et ce cœur est-il prêt à répondre à celui de Walter? Elle n'en a rien laissé paraître d'ailleurs. Elle s'est tenue sur la réserve que lui commande sa dignité et l'éloignement que se témoignent les deux familles. Cependant, un observateur aurait pu remarquer que Walter et Miss Di ne prennent jamais part aux discussions qui s'élève parfois dans l'hôtel de la 15e avenue comme dans celui de la 19e. Lorsque l'intraitable James Tanguardon s'abandonne à quelques fulminantes diatribes contre les Coverley,
Son fils courbe la tête, se tait, s'éloigne. Lorsque Nat Coverley tempête contre l'étang Gardon, sa fille baisse les yeux, sa jolie figure pâlit, et elle essaie de changer la conversation, sans y réussir, il est vrai. Que ces deux personnages ne se soient aperçus de rien, c'est le lot commun des pères, auquel la nature a mis un bandeau sur les yeux. Mais, du moins Callistus Munbar l'affirme, Madame Coverley et Madame Tangardon n'en sont plus à ce degré d'aveuglement. Les mères n'ont pas des yeux pour ne point voir, et cet état d'âme de leurs enfants est un sujet de constante appréhension, puisque le seul remède possible est inapplicable. Au fond, elles sentent bien que devant les inimitiés des deux rivaux, devant leur amour-propre, constamment blessé dans des questions de préséance, aucune réconciliation, aucune union n'est admissible. Et pourtant Walter et Miss Day s'aiment. Leurs mères n'en sont plus à le découvrir. Plus d'une fois déjà, le jeune homme a été sollicité de faire un choix parmi les jeunes filles à marier de la section bâbordaise. Il en est de charmantes, parfaitement élevées, d'une situation de fortune presque égale à la sienne et dont les familles seraient heureuses d'une pareille union. Son père l'y a engagée de façon très nette, sa mère aussi, bien qu'elle se soit montrée moins pressante. Walter a toujours refusé, donnant pour prétexte qu'il ne se sent aucune propension au mariage. Or, l'ancien négociant de Chicago n'entend pas de cette oreille. Quand on possède plusieurs centaines de millions en dot, ce n'est pas pour rester célibataire. Si son fils ne trouve pas une jeune fille à son goût à Standard Island, de son monde s'entend, eh bien, qu'il voyage, qu'il aille courir l'Amérique ou l'Europe, avec son nom, sa fortune, sans parler des agréments de sa personne, il n'aura que l'embarras du choix. Voulut-il d'une princesse de sang impérial ou royal ? Ainsi s'exprime James Tangardon. Or, chaque fois que son père l'a mis au pied du mur, Walter s'est défendu de le franchir, ce mur, pour aller chercher femme à l'étranger. Et sa mère lui ayant dit une fois « Mon cher enfant, y a-t-il donc ici quelque jeune fille qui te plaise ?»« Oui, ma mère, » a-t-il répondu. Et comme Madame Tangardon n'a pas été jusqu'à lui demander quelle était cette jeune fille, il n'a pas cru opportun de la nommer. Que pareille situation existe dans la famille Coverley, que l'ancien banquier de la Nouvelle-Orléans désire marier sa fille à l'un des jeunes gens qui y fréquentent l'hôtel, dont les réceptions sont très à la mode, cela n'est pas douteux. Si aucun d'eux ne lui agrée, eh bien, son père et sa mère l'emmèneront à l'étranger. Ils visiteront la France, l'Italie, l'Angleterre. Miss Day répond alors qu'elle préfère ne point quitter Milliard City. Elle se trouve bien à Standard Island. Elle ne demande qu'à y rester. Monsieur Coverley ne laisse pas d'être inquiet de cette réponse, dont le véritable motif lui échappe. D'ailleurs, Madame Coverley n'a point posé à sa fille une question aussi directe que celle de Madame Tancardon à Walter. Cela va de soi. Et il est présumable que Miss Day n'aurait pas osé répondre avec la même franchise, même à sa mère. Voilà où en sont les choses. Depuis qu'ils ne peuvent plus se méprendre sur la nature de leurs sentiments, si le jeune homme et la jeune fille ont quelquefois échangé un regard, ils ne se sont jamais adressés une seule parole. Se rencontrent-ils ? Ce n'est que dans les salons officiels, aux réceptions de Sirius Bickerstaff, lors de quelques cérémonies à laquelle les notables milliardaires ne sauraient se dispenser d'assister, ne fût-ce que pour maintenir leur rang. Or, en ces circonstances, Walter Tangardon et Miss Day Coverley observent une complète réserve, étant sur un terrain où toute imprudence pourrait amener des conséquences fâcheuses. Que l'on juge donc de l'effet, produit après l'extraordinaire incident qui a marqué le bal du gouverneur. Incident où les esprits portés à l'exagération ont voulu voir un scandale, et dont toute la ville s'est entretenue le lendemain. Quant à la cause qu'il a provoquée, rien de plus simple. Le surintendant avait invité Miss Coverley à danser, il ne s'est pas trouvé là au début du quadrille. Oh, le malin Munbar ! Walter Tangardon s'est présenté à sa place, et la jeune fille l'a accepté pour cavalier. Qu'à la suite de ce fait si considérable dans les mondanités de Milliard City, il y ait eu des explications de part et d'autre, cela est probable, cela est même certain. M. Tangardon a dû interroger son fils, et M. Coverley sa fille à ce sujet. Mais qu'a-t-elle répondu Miss Day ? Qu'a-t-il répondu Walter ? Madame Coverley et Madame Tangardon sont-elles intervenues ? Et quel a été le résultat de cette intervention ? Avec toute sa perspicacité de furet, toute sa finesse diplomatique, Callistus Munbar n'est pas parvenu à le savoir. Aussi, quand Frascolin l'interroge là-dessus, se contente-t-il de répondre par un clignement de son œil droit ? Ce qui ne veut rien dire, puisqu'il ne sait absolument rien. L'intéressant à noter, c'est que depuis ce jour mémorable, lorsque Walter rencontre Madame Coverley et Miss Dye à la promenade, il s'incline respectueusement et que la jeune fille et sa mère lui rendent son salut. À en croire le surintendant, c'est là un pas immense, une enjambée sur l'avenir. Dans la matinée du 25 novembre, a lieu un fait de mer qui n'a aucun rapport avec la situation des deux prépondérantes familles de Lila Ellis. Au lever du jour, les vigies de l'observatoire signalent plusieurs bâtiments de haut bord qui font route dans la direction du sud-ouest. Ces navires marchent en ligne, conservant leur distance. Ce ne peut être que la division d'une des escadres du Pacifique. Le commodore Simcoe prévient télégraphiquement le gouverneur et celui-ci donne des ordres pour que les saluts soient échangés avec ses navires de guerre. Frascolin, Hibernès, Pinchina se rendent à la tour de l'observatoire, désireux d'assister à cet échange de politesse internationale. Les lunettes sont braquées sur les bâtiments, au nombre de 4, distants de 5 à 6 milles. Aucun pavillon ne bat à leur corne, et on ne peut reconnaître leur nationalité. « Rien n'indique à quelle marine ils appartiennent ?» demande Frascolin à l'officier. « Rien, » répondit celui-ci, « mais à leur apparence, je croirais volontiers que ces bâtiments sont de nationalité britannique. » Du reste, dans ces parages, on ne rencontre guère que des divisions d'escadres anglaises, françaises ou américaines. Quels qu'ils soient, nous serons fixés lorsqu'ils auront gagné 1 ou 2 milles. Les navires s'approchent avec une vitesse très modérée, et s'ils ne changent pas leur route, ils devront passer à quelques encablures de Standard Island. Un certain nombre de curieux se portent à la batterie de l'éperon et suivent avec intérêt la marche de ces navires. Une heure plus tard, les bâtiments sont à moins de 2 milles. Des croiseurs d'anciens modèles, gréé en 3 mâts, très supérieur d'aspect à ces bâtiments modernes réduits à une mâture militaire. De leurs larges cheminées s'échappent des volutes de vapeur que la brise de l'ouest chasse jusqu'aux extrêmes limites de l'horizon. Lorsqu'ils ne sont plus qu'à 1,5 mille, l'officier est en mesure d'affirmer qu'ils forment la division britannique de l'ouest pacifique, dont certains archipels, ceux de Tonga, de Samoa, de Cook, sont possédés par la Grande-Bretagne ou placés sous son protectorat. L'officier se tient prêt alors à faire hisser le pavillon de Standard Island, dont l'étamine, écussonnée d'un soleil d'or, se déploiera largement à la brise. On attend que le salut soit fait par le vaisseau amiral de la division. Une dizaine de minutes s'écoulent. « Si ce sont des Anglais, observe Frascolin, ils ne mettent guère d'empressement à être polis. »« Que veux-tu ? » répond Pinchina. John Bull a généralement son chapeau vissé sur la tête et le dévissage exige une assez longue manipulation. L'officier hausse les épaules. « Ce sont bien des Anglais, » dit-il. « Je les connais, ils ne salueront pas. » En effet, aucun pavillon n'est hissé à la brigantine du navire de tête. La division passe, sans plus se soucier de l'île Aélis que si elle n'eût pas existé. Et d'ailleurs, de quel droit existe-t-elle? De quel droit viendrait-elle encombrer ces parages du Pacifique? Pourquoi l'Angleterre lui accorderait-elle attention, puisqu'elle n'a cessé de protester contre la fabrication de cette énorme machine qui, au risque d'occasionner des abordages, se déplace sur ses mers et coupe les routes maritimes? La division s'est éloignée, comme un monsieur mal élevé qui se refuse à reconnaître les gens sur les trottoirs de Regent Street ou du Strand, et le pavillon de Standard Island reste au pied de la hampe. De quelle manière, dans la ville, dans les ports, on traite de hautaine Angleterre, cette perfide Albion, cette Carthage des temps modernes? Il est aisé de l'imaginer. Résolution est prise de ne jamais répondre à un salut britannique, s'il en fait, ce qui est hors de toute supposition. « Quelle différence avec notre escadre lors de son arrivée à Tahiti ?» s'écrie Hibernès. « C'est que les Français, » réplique Frascolin, « sont toujours d'une politesse. »« Sostuneta con expression, » ajoute son Altesse, en battant la mesure d'une main gracieuse. Dans la matinée du 29 novembre, les vigies ont connaissance des premières hauteurs de l'archipel de Cook, situé par 20 degrés de latitude sud et 160 degrés de longitude ouest. Appelé des noms de Mangia et Darwe, puis du nom de Cook, qui débarqua en 1770, il se compose des îles Mangia, Rarotonga, Waitim, Mitio, Hervey, Palmerston, Edgemaster, etc. Sa population, d'origine maori, descendue de 20 000 à 12 000 habitants, est formée de Malais polynésiens, que les missionnaires européens convertirent au christianisme. Ces insulaires, très soucieux de leur indépendance, ont toujours résisté à l'envahissement exogène. Ils se croient encore les maîtres chez eux. bien qu'ils en arrivent peu à peu à subir l'influence protectrice. On sait ce que cela veut dire. Du gouvernement de l'Australie anglaise. La première île du groupe que l'on rencontre, c'est Mangia, la plus importante et la plus peuplée. Au vrai, la capitale de l'archipel. L'itinéraire y comporte une relâche de 15 jours. Est-ce donc en cet archipel que Pinchina fera connaissance avec les véritables sauvages, ces sauvages à la Robinson Crusoe, qu'il avait cherché vainement aux Marquises, aux îles de la Société et de Nuka Hiva? Sa curiosité de Parisien va-t-elle être satisfaite? Verra-t-il des cannibales, absolument authentiques, ayant fait leur preuve? « Mon vieux Zorn, dit-il ce jour-là à son camarade, s'il n'y a pas d'anthropophage ici, il n'y en aura plus nulle part. »« Je pourrais te répondre, qu'est-ce que cela me fait ?» réplique le hérisson du quatuor. « Mais je te demanderai, pourquoi nulle part ?»« Parce qu'une île qui s'appelle Mangia ne peut être habitée que par des cannibales. » Et Pinchina n'a que le temps d'esquiver le coup de poing que mérite son abominable calembredaine. Du reste, qu'il y ait ou non des anthropophages à Mangia, Son Altesse n'aura pas la possibilité d'entrer en communication avec eux. En effet, lorsque Standard Island est arrivé à un mille de Mangia, une pirogue, qui s'est détachée du port, se présente aux pierres de Tribor Arbor. Elle porte le ministre anglais, simple pasteur protestant, lequel, mieux que les chefs mangiens, exerce son agaçante tyrannie sur l'archipel. Dans cette île, mesurant 30 000 de circonférence, peuplée de 4 000 habitants, soigneusement cultivée, riche en plantations de taro, en champs d'arrowroot et d'igname, c'est ce révérend qui possède les meilleures terres. À lui la plus confortable habitation d'Ushura, capitale de l'île, au pied d'une colline hérissée d'arbres à pin, de cocotiers, de manguiers, de borous, de pimentiers, sans parler d'un jardin en fleurs où s'épanouissent les coléas, les gardénias et les pivoines. Il est puissant par les mutoïs, ces policiers indigènes qui forment une escouade devant laquelle s'incline leur majesté manguienne. Cette police défend de grimper aux arbres, de chasser et de pêcher les dimanches et fêtes, de se promener après 9 heures du soir, d'acheter les objets de consommation à des prix autres que ceux d'une taxe très arbitraire, le tout sous peine d'amende payée en piastres, la piastre valant 5 francs et dont le plus clair va dans la poche du peu scrupuleux pasteur. Lorsque ce gros petit homme débarque, l'officier de port s'avance à sa rencontre et des saluts sont échangés. « Au nom du roi et de la reine de Mangia, dit l'anglais, je présente les compliments de leur majesté à son excellence le gouverneur de Standard Island. Je suis chargé de les recevoir et de vous en remercier, monsieur le ministre, répond l'officier, en attendant que notre gouverneur aille en personne présenter ses hommages. Son excellence sera la bien reçue, dit le ministre, dont la physionomie chefouine est véritablement pétrie d'astuce et d'avidité. Puis, reprenant d'un ton doucereux, l'état sanitaire de Standard Island ne laisse rien à désirer, je suppose. Jamais il n'a été meilleur. Il se pourrait cependant que quelques maladies épidémiques, l'influenza, le typhus, la petite vérole, pas même le coryza, monsieur le ministre. Veuillez donc nous faire délivrer la patente nette, et dès que nous serons à notre poste de relâche, les communications avec Mangia s'établiront dans des conditions régulières. C'est que, répondit le pasteur, non sans une certaine hésitation, si des maladies... Je vous répète qu'il n'y en a pas trace. Alors les habitants de Standard Island ont l'intention de débarquer. Oui, comme ils viennent de le faire récemment dans les autres groupes de l'Est. Très bien, répond le gros petit homme. Soyez sûr qu'ils seront accueillis à merveille, du moment qu'aucune épidémie, aucune, vous dis-je. Qu'ils débarquent donc, en grand nombre. Les habitants les recevront de leur mieux, car les Manguiens sont hospitaliers. Seulement, Leur Majesté, d'accord avec le Conseil des chefs, ont décidé qu'à Mangia, comme dans les autres îles de l'archipel, les étrangers auraient à payer une taxe d'introduction. Une taxe? Oui, 2 piastres. C'est peu de choses, vous le voyez. 2 piastres pour toute personne qui mettra le pied sur l'île. Très évidemment, le ministre est l'auteur de cette proposition, que le roi, la reine, le Conseil des chefs se sont empressés d'accepter, et dont un fort tantième est réservé à son excellence. Comme dans les groupes de l'Est Pacifique, il n'avait jamais été question de semblables taxes, l'officier de port ne laisse pas d'exprimer sa surprise. « Cela est sérieux ? » demande-t-il. « Très sérieux, » affirme le ministre. « Et faute du paiement de ces 2 piastres, nous ne pourrions laisser personne. »« C'est bien, » répond l'officier. Puis, saluant son excellence, il se rend au bureau téléphonique et transmet au Commodore la susdite proposition. Ethel Simcoe se met en communication avec le gouverneur. Convient-il que Lila Ellis s'arrête devant Mangia, les prétentions des autorités mangiennes étant aussi formelles qu'injustifiées? La réponse ne se fait pas attendre. Après en avoir conféré avec ses adjoints, Sirius Bickerstaff refuse de se soumettre à ces taxes vexatoires. Standard Island ne relâchera ni devant Mangia, ni devant aucune des îles de l'archipel. Le Cupid Pasteur en sera pour sa proposition, et les milliardaires iront, dans les parages voisins, visiter des indigènes moins rapaces et moins exigeants. Ordre est donc envoyé aux mécaniciens de lâcher la bride à leurs millions de chevaux vapeur, et voilà comment Pinchina fut privé du plaisir de serrer la main à d'honorables anthropophages, s'il y en avait. Mais qu'il se console, on ne se mange plus entre soi aux îles de Cook. À regret peut-être. Standard Island prend direction à travers le large bras qui se prolonge jusqu'à l'agglomération des quatre îles, dont le chapelet se déroule au nord. Nombre de pirogues se montrent, les unes assez finement construites et gréées, les autres simplement creusées dans un tronc d'arbre, mais montées par de hardis pêcheurs qui s'aventurent à la poursuite des baleines, si nombreuses en ces mers. Ces îles sont très verdoyantes, très fertiles, et l'on comprend que l'Angleterre leur ait imposé son protectorat, en attendant qu'elle les range parmi ses propriétés du Pacifique. En vue de Mangia, on a pu apercevoir ses côtes rocheuses, brodées d'un bracelet de corail, ses maisons éblouissantes de blancheur, crépies d'une chaux vive, qui est extraite des formations coralligènes, ses collines, tapissées de la sombre verdure des essences tropicales, et dont l'altitude ne dépasse pas 200 mètres. Le lendemain, le Commodore Simcoe a connaissance de Rarotonga, par ses hauteurs boisées jusqu'à leur sommet. Vers le centre, pointe à 1500 mètres un volcan, dont la cime émerge d'une frondaison d'épaisses futaies. Entre ces massifs se détache un édifice tout blanc, à fenêtres gothiques. C'est le temple protestant, bâti au milieu de larges forêts de mappées qui descendent jusqu'au rivage. Les arbres, de grande taille, à puissantes ramures, aux troncs capricieux, sont déjetés, bossus, contournés comme les vieux pommiers de la Normandie ou les vieux oliviers de la Provence. Peut-être le révérend qui dirige les consciences rarotongiennes, de compte à demi avec le directeur de la société allemande océanienne, entre les mains de laquelle se concentre tout le commerce de l'île, n'a-t-il pas établi des taxes d'étrangers, à l'exemple de son collègue de Mangia? Peut-être les milliardaires pourraient-ils, sans bourse déliée, aller présenter leurs hommages aux deux reines qui s'y disputent la souveraineté, l'une au village d'Aronianyi, l'autre au village d'Avuara. Mais Sirius Bickerstaff ne juge pas à propos d'atterrir sur cette île, et il est approuvé par le conseil des notables, habitué à être accueilli comme des rois en voyage. En somme, perte sèche pour ces indigènes, dominés par de maladroits anglicans, car les nababs de Standard Island ont la poche bien garnie et la piastre facile. À la fin du jour, on ne voit plus que le pic du volcan se dressant comme un style à l'horizon. Des myriades d'oiseaux de mer se sont embarqués sans permission et voltigent au-dessus de Standard Island. Mais la nuit venue, ils s'enfuient à tire-d'aile, regagnant les îlots incessamment battus de la houle au nord de l'archipel. Alors il se tient une réunion, présidée par le gouverneur, et dans laquelle est proposée une modification à l'itinéraire. Standard Island traverse des parages où l'influence anglaise est prédominante. Continuer à naviguer vers l'ouest, sur le 20e parallèle, ainsi que cela avait été décidé, c'est faire route sur les îles Tonga, sur les îles Fidji. Or, ce qui s'est passé aux îles de Cook n'a rien de très encourageant. Ne convient-il pas plutôt de rallier la Nouvelle-Calédonie, l'archipel de Loyalty, ses possessions où le joyau du Pacifique sera reçu avec toute l'urbanité française? Puis, après le solstice de décembre, on reviendrait franchement vers les zones équatoriales. Il est vrai, ce serait s'écarter de ces nouvelles Hébrides, où l'on doit rapatrier les naufragés du Ketch et leur capitaine. Pendant cette délibération à propos d'un nouvel itinéraire, les Malais se sont montrés en proie à une inquiétude très explicable, puisque si la modification est adoptée, leur rapatriement sera plus difficile. Le capitaine Sarol ne peut cacher son désappointement, disons même sa colère, et quelqu'un qui l'eût entendu parler à ses hommes aurait sans doute trouvé son irritation plus que suspecte. « Les voyez-vous, répétait-il, nous déposer au Loyalty ou à la Nouvelle-Calédonie, et nos amis qui nous attendent à Eromango, et notre plan si bien préparé aux nouvelles Hébrides, est-ce que ce coup de fortune va nous échapper ?» Par bonheur pour ces Malais, par malheur pour Standard Island, le projet de changer d'itinéraire n'est pas admis. Les notables de Milliard City n'aiment point qu'il soit apporté de modifications à leurs habitudes. La campagne sera poursuivie, telle que l'indique le programme arrêté au départ de la baie Madeleine. Seulement, afin de remplacer la relâche de 15 jours qui devait être faite aux îles de Cook, on décide de se diriger vers l'archipel des Samoa, en remontant au nord-ouest, avant de rallier le groupe des îles Tonga. Et lorsque cette décision est connue, les Malais ne peuvent dissimuler leur satisfaction. Après tout, quoi de plus naturel? Et ne doivent-ils pas se réjouir de ce que le Conseil des Notables n'ait pas renoncé à son projet de les rapatrier aux Nouvelles-Hébrides ?